Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette séance annuelle Centre Sèvres Source Chrétienne. Je dois malheureusement excuser Isabelle Baucher qui, depuis longtemps, il était prévu depuis longtemps qu'elle participe à un colloque en Belgique, un colloque sur Augustin, je crois. Et donc, malheureusement, elle ne peut pas être des nôtres. C'est qu'Isabelle est co-responsable du département d'études patristiques. En tout cas, bienvenue à vous tous, à vous toutes. J'ai reçu aussi des mots d'excuses de Dominique Gonnet, donc, qui est le secrétaire de Source Chrétienne. Malheureusement, il est retenu à Lyon, au séminaire de Syriac. Et également, Jean-Noël Guinaud aurait beaucoup aimé être ici. Il m'a chargé de dire que malheureusement, il était retenu à Lyon également, mais il s'associe de tout cœur à cette manifestation. Comme il était annoncé, cette séance comprendra deux parties. Dans un premier temps, suivant l'habitude de ces dernières années, nous entendrons la présentation de l'un des volumes qui sont parus durant cette année 2021 dans la collection Source Chrétienne, le volume des œuvres exégétiques de Chaire de Lyon. Et je voudrais dès maintenant souhaiter la bienvenue à Martine Dulé, que nous allons entendre à propos de ce volume. Et puis d'autre part, dans la seconde partie de cette séance, après un temps d'échange, eh bien, nous entendrons Guillaume Badi, donc directeur de l'Institut des Sources Chrétiennes, qui est venu spécialement de Lyon. Il a quitté Lyon le 8 décembre, ce qui est vraiment un grand mérite, parce que Lyon est la plus belle ville du monde le 8 décembre, comme chacun sait, avec les illuminations, les lumières. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'être parmi nous cet après-midi. Et il nous présentera donc les autres volumes de la collection qui sont parus durant cette année. Il donnera peut-être aussi quelques nouvelles plus largement de l'Institut Source Chrétienne. Donc pour commencer, nous allons nous tourner vers ce volume 618 de la collection Source Chrétienne, œuvres exégétiques de Chaire de Lyon. Je suis très heureux d'introduire donc l'exposé de Martine Dulé. Martine Dulé est bien connue, je rappelle qu'elle est directrice d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, membre honoraire du laboratoire d'études sur les monothéismes, spécialiste très reconnu d'Augustin, et je ne veux pas rappeler les très nombreux travaux qu'elle a déjà effectués sur Augustin, mais je voudrais au moins signaler qu'elle participe très activement à l'heure actuelle à l'édition et la traduction des Enarrationes in Psalmos, très grande entreprise, une entreprise de longue haleine, ainsi qu'à l'édition, la traduction des Sermons d'Olbeau. Elle est spécialiste beaucoup plus largement, bien sûr, de la littérature chrétienne en langue latine, avec entre autres des travaux sur Victorin de Petovio, Ticonius, Jérôme et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres, parmi lesquels justement Eucher, moine de Lérins, est devenu évêque de Lyon. Vous avez depuis longtemps un intérêt tout spécifique pour l'exégèse, l'interprétation de l'écriture, de la patristique latine, et c'est ce qui contribue sûrement à expliquer votre intérêt pour Eucher et la publication, l'édition, la traduction de ces œuvres exégétiques de Chaire de Lyon. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter ce volume, et donc je vous laisse la parole.
Bon, mais après tout, je peux commencer, puisque vous avez dit que c'était mon intérêt pour l'exégèse patristique qui m'avait conduite à Eucher de Lyon. Première remarque, on m'aurait dit, il y a 50 ans maintenant, que je me serais intéressée aux petits textes d'Eucher de Lyon après Augustin, où je n'y aurais pas cru, parce que c'est un texte qui, à première vue, semble peu... Enfin, pas très parlant, voilà. Hein. Mais on n'entend pas, oui.
J'ai oublié de dire que je vais faire passer un exemplaire de l'ouvrage, hein, pendant que vous parlez.
Oui, je t'en prie. Oui. Et bien, donc, je vais commencer par un hommage à quelqu'un qui est bien connu ici, c'était Jean Danielou, hein, parce que quand je faisais mes études de lettres Jacques Fontaine nous avait fait lire les symboles chrétiens primitifs de Jean Danielou, et ça m'a passionné et j'ai toujours voulu travailler là-dessus. Quand je suis allé voir Jacques Fontaine pour un sujet de thèse, je lui ai dit que je voulais travailler sur quelque chose comme ça. Il m'a dit, vous savez, c'est un travail de fin de carrière, c'est pas un travail de thèse. Il avait tout à fait raison, heureusement que je ne me suis pas embarqué là-dedans. Enfin bref, ça c'était un peu d'égo-histoire, c'est terminé. Bon, alors les Reims, Eucherde, moine de les Reims, la naissance du monastère se fait vers 400-410, on ne connaît pas exactement la date exacte. Il a très rapidement grandi, puisque dans les années 428-429, on en parle déjà comme d'un ingens monasterium, donc ça a été très vite. Est-ce que c'était Port-Royal des Champs ou un monastère à la mode égyptienne? Suivant les sources qu'on utilise, on peut avoir des impressions différentes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que se sont rassemblés à Les Reims des aristocrates gaulois qui menaient une vie d'études et d'otium philosophique à l'antique, en s'adonnant à une ascèse très modérée, avec des horaires de prière souples et des offices peu fréquents, tandis que leurs serviteurs pourvoyaient à leurs besoins matériels. Bon, c'est peut-être un peu simplifié, mais ça risque quand même d'être assez vrai, parce que dans les instructions, l'agricola, c'est celui qui donne des ordres, et pas un travailleur manuel, donc c'est peut-être significatif quand même. Mais enfin, d'autres, fort savants, qui se sont surtout fondés sur la question de la règle primitive de les Reims, pensent que le travail manuel et les offices monastiques classiques ont fait partie intégrante de la vie à les Reims dès les premiers temps. Cela dit, on ne sait pas très bien, vous savez, parce que c'est un peu comme Paulin de Nol et son monastère à Nol. Comment ça marchait, hein, ces monastères où il y avait monsieur et madame plus les enfants, enfin, pas chez Paulin, il n'y avait pas d'enfants, mais enfin, c'était le cas de notre ami Eucher. En tout cas, comme c'était un groupe d'aristocrates gaulois, c'est devenu aussi une pépinière d'évêques. Il n'y a pas moins de 12 évêques qui sont sortis de les Reims. Alors vous allez me dire quel est le lien. Ben c'est simple, hein, parce qu'à cette période troublée, on choisit de préférence des membres de l'aristocratie capables de défendre leurs ouailles et aussi capables, enfin, ayant une certaine culture, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Eucher gagne les Reims avant 421. Il opte pour la vie monastique en compagnie de sa femme, Galla, et de leurs deux fils, Salonius, qui est âgé de 10 ans, et son frère cadet, Véranus. Comme son parent Valerianus, qui est le destinataire du De Contemptu Mundi, et comme Paulin de Nol, dont il est l'ami, il faisait partie de l'ordre sénatorial. D'où venait-il? On ne sait pas trop, peut-être du nord de la Gaule, comme Honora, qui était le fondateur du monastère, et d'autres lériniens des premiers temps viennent de là aussi. Bon, c'est l'époque où quand même le nord de la Gaule a tendance à se déplacer plutôt vers Arles, enfin dans des régions moins occupées moins gênées par les invasions, disons. Le couple s'installe sur l'île de Sainte-Marguerite, l'Hérault, et il est rejoint ensuite par Lupus et sa famille aussi. Est-ce qu'il a vécu seulement dans cette île ou aussi dans l'île Saint-Honorat? Vous savez qu'il y a deux îles à les Reims, en face de Cannes pratiquement. On ne sait pas. Mais c'est une hypothèse, hein, je n'ai pas de preuves, mais enfin, il n'est pas impossible que l'Hérault ait été justement le lieu d'installation des couples, hein, membres de la communauté, voire que Cher aurait été le responsable du groupe. Ben, non, pas le père Abbé, bien sûr, qui était Honorat, hein, sur l'île Saint-Honorat, mais peut-être responsable de ce groupe. Parce que la dédicace que fait Cassien de la seconde partie des conférences à Honorat, abbé de les Reims, mentionne aussi Eucher, hein, ce qui manifeste non seulement l'estime qu'il avait à l'endroit d'Eucher, mais aussi l'importance de ce dernier dans le monastère des Îles. Les écrits d'Eucher. Alors, il y en a deux types. Il y a deux traités ascétiques, le De Laude Eremi, l'éloge du désert, rédigé vers 428-429 à les Reims, et qui est un éloge de la vie monastique, et qui est dédié à Hilaire, qui sera le successeur d'Honorat sur le siège d'Arles, parce que Honorat, abbé de les Reims, est ensuite devenu évêque d'Arles. D'autre part, le De Contemptu Mundi, adressée à son parent Valerianus pour l'inviter à s'adonner à la vie monastique, ceci en 432. C'est encore dans les îles qu'il travaille à ces deux ouvrages exégétiques qui font l'objet de ce volume de sources chrétiennes, les instructions et les clés pour l'intelligence spirituelle qu'il rédige entre 431 et 434-435. Il dit dans ses préfaces, et tout particulièrement dans celle des instructions, qu'il les a écrits pour parachever la formation de ses fils. Les instructions ont été écrites pour l'aîné, Salonius, en premier, c'est logique, hein, même si dans les éditions, hein, c'est généralement inversé. Et Salonius, qui ensuite sera évêque de Genève, et viennent ensuite les formulae, hein, donc les clés pour l'intelligence de l'écriture, qui sont écrites pour Veranus, le cadet, qui lui sera évêque de Vence. Alors, vous voyez, on voit là déjà deux qui sortent de l'Erins, bon, les deux fils de Cher. On avait longtemps cru que les deux livres avaient été composés à Lyon une fois Eucher devenu évêque de la ville vers 435-439, parce que les billets de remerciement qui lui ont été envoyés pour l'envoi de ces ouvrages sont tous adressés à Eucher, évêque, papa ou épiscopus. Que ce soit le billet d'Hilaire d'Arles, celui de Salvian de Marseille, celui du prêtre Rusticus. Mais un examen attentif des lettres conduit à distinguer l'époque où le Lérinien a rédigé les volumes à l'intention de ses fils encore jeunes, il n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux ce qu'il déclare dans les préfaces, et la date à laquelle il s'est décidé à les diffuser. C'est en tant qu'évêque de Lyon, qu'entre 442 et 450, il s'avise de faire circuler ses opuscules exégétiques écrits d'abord pour ses fils. Et ce n'était certainement pas une mauvaise idée, parce qu'on va voir qu'ils ont eu beaucoup de succès ensuite dans l'instruction des moines et des communautés. Les instructions d'abord, elles appartiennent au genre littéraire des questions et réponses, qui est un genre hérité des philosophes antiques, qui a été illustré dans le judaïsme par Philon d'Alexandrie, et chez les chrétiens par divers auteurs, parmi lesquels Eusèbe de Césarée, Jérôme, l'Ambrosiastère et Augustin. Le livre 1 apporte des solutions aux questions posées à Eucher par Salonius. Il y a des points d'exégèse littérale, des interprétations symboliques et des points de théologie biblique. C'est l'analyse de ces questions qui m'a fait penser que c'était vraiment des questions posées par son fils, parce que autrement il aurait choisi des thèmes plus à la mode théologiquement dans certains cas. Et c'est vraiment des questions de détail. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui faisait une lecture systématique de la Bible, ce qui faisait partie de la formation des moines. Hein. C'est à l'occasion de cette lecture systématique que des questions lui venaient et qu'il interrogeait papa. Hein, qui, bon. Le livre 2, qui est quelque chose qui a été décidé par, pas demandé par Salonius cette fois-ci, mais décidé par Eucher lui-même, comprend un bref lexique des noms hébreux de l'Ancien Testament, très inspiré de Jérôme, pour dire plus que très inspiré, parce qu'il s'est contenté de faire un tri et d'organiser les choses autrement, mais c'est de simplifier, mais c'est du Jérôme. Bon, à cela est jointe l'explication de quelques termes hébreux, grecs ou araméens, encore en usage dans le Nouveau Testament et la liturgie, et suit un dictionnaire des réalia de la Bible, dans lequel il peut être question des fleuves, des peuples, des pays, etc., etc., ou des vêtements portés par les gens qui ont des noms un peu difficiles. Je vais vous prendre quelques exemples des questions auxquelles répond Eucher dans le livre 1. La première que j'ai choisie, hein, concerne les anthropomorphismes, question qui turlupine beaucoup les gens à cette époque-là. Je cite l'auteur. Hein. D'abord, la question de Salonius. Comment faut-il comprendre que Dieu se promène dans le paradis selon ce qui est raconté dans l'Écriture? Réponse de Cher. L'expression « se promener » signifie la présence de Dieu en ce lieu. C'est en effet une habitude de l'Écriture que de rendre des mouvements et des affects divins à travers des représentations humaines, pour que ce soit plus aisément accessible à l'intelligence des hommes. Ainsi, quand l'Écriture parle du bras de Dieu, elle désigne son pouvoir et sa puissance. Quand elle parle de ses oreilles, c'est pour dire que sans aucun doute, il entend tout. Quand elle parle de ses yeux, C'est pour dire qu'il voit tout sans exception. Quand elle parle de son âme, c'est pour dire qu'il est pour toujours et perpétuellement vivant, ou que c'est par lui que tout reçoit vie. Bon, il est évident que ce discours n'a pas grand-chose d'original. Hein. D'ailleurs, Eucher dit d'emblée dans sa préface qu'il n'a l'intention de ne rien dire de son propre chef, mais de suivre la tradition de l'Église. Bon, et si vous voulez savoir les sources hein, de tous ces passages, ben vous consultez le volume de sources chrétiennes dans lequel il y a évidemment un bon nombre de notes qui renvoient à différents auteurs. Je y reviendrai ensuite. Autre question, le Seigneur, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Oui, si les anthropomorphismes, c'était une question importante, il y revient aussi dans les formulae, avec quelque chose d'à peu près analogue du coup que je ne vous ai pas donné. Oui, le Seigneur dit à Moïse, tu verras mon dos. Oh, dans l'Exode, hein. Que faut-il entendre par là, demande Salonius. Cela veut dire qu'il verrait en esprit ou dans sa postérité les œuvres divines postérieures qui seraient manifestées en Christ dans les derniers temps. Il va voir son dos, il va voir par derrière, il va voir les œuvres plus tardives. Autre question qui gêne Salonius, les différences problématiques qui existent entre les deux testaments. Question de Salonius, que répondrons-nous aux objections de ceux qui demandent pourquoi Dieu s'est plu à de nouveaux sacrifices après avoir rejeté les anciens. Ils affirment en effet qu'on réforme seulement ce qu'on estime avoir été mal fait. Vaste question, répond Eucher, à laquelle la nécessité nous impose de répondre brièvement ainsi. Dieu ne peut apparaître muable sous prétexte que les sacrifices ont été modifiés selon ce qui était opportun aux diverses époques. Même l'année, avec ses saisons, le cours de la vie, avec ses âges, connaissent des variations. La raison de la divine providence qui les a institués ne varie pas pour autant, pas plus que ne change la raison de l'agriculture, si l'agriculteur donne des ordres différents pour le travail du sol en été et en hiver. Ce n'est pas lui qui est différent quand il agit ainsi, ce sont les saisons où il le fait. Dieu donc prescrit à chaque âge ce qui convient. Autre problème, hein, il y a des contradictions dans l'écriture. Bon. Exemple, Balaam. Balaam était un païen notoire, dit Salonius. Comment se fait-il qu'il ait prophétisé, comme le garantit l'autorité du texte sacré ? Réponse, c'était pour que la vérité se fît connaître de multiples manières, en étant annoncée en tout lieu, même par des incroyants, et pour que ce païen qui prophétisait fût un signe pour les païens qui viendraient à la foi. De fait, au livre de Job, Élieu a lui aussi fait indubitablement de nombreuses prédictions du futur, et Caïphe a prophétisé au sujet de notre Seigneur et Sauveur dans l'Évangile. Donc, ce n'est pas contradictoire, c'est très possible. J'en viens maintenant à un certain nombre de difficultés relevées dans les psaumes, ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'encore maintenant, si vous avez l'habitude de lire les psaumes en hébreu ou je ne sais quoi, vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de versets auxquels personne n'a jamais rien compris. Et donc, les traductions peuvent être fort différentes. Et donc, ça pose problème. Que signifient ces paroles, demande Salonius, nous sommes passés par le feu et par l'eau, et tu nous as conduits au repos. Réponse, par l'eau et le feu, le texte désigne les persécutions et le martyre. Certains pensent qu'il faut voir ici dans l'eau le baptême et dans le feu l'Esprit Saint, qui lorsqu'il est répandu, dévore les péchés comme un feu. Aussi est-il écrit, votre Dieu est un feu dévorant. Vous notez qu'au passage, le repos, il n'en dit rien, probablement parce que ça paraissait évident à son auditeur. Autre question, là c'était le psaume 65-12, à propos du psaume 73-12, que signifie ce qui est écrit ? Dieu, notre roi, a opéré le salut au centre de la terre avant les siècles. Réponse, le texte parle de la Judée, où le Christ a délivré le monde par sa croix. Certains pensent qu'elle doit être appelée le nombril de la terre. Autre interprétation, il a opéré le salut au milieu de la terre, c'est-à-dire dans le sein de la Vierge. Et là, pas de commentaire sur ce dernier point, qui est quand même pas très évident, mais pourquoi ? Probablement parce que c'est bien connu, hein, que la terre symbolise la Vierge, il y a beaucoup de textes qui reviennent là-dessus. Donc probablement, ça ne fait pas problème pour Salonius. À propos maintenant du psaume 6, comment se renouvelle la jeunesse de l'aigle ? Selon ce qu'on lit, ta jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. Réponse, on dit que les aigles perdent leurs plumes sous l'effet d'une extrême vieillesse et que, retournés au nid, ils sont à leur tour nourris par leurs petits, qui les servent, jusqu'au moment où, débarrassés de la décrépitude du grand âge, ils retrouvent avec leurs plumes l'usage du vol. Au sens anagogique, notre jeunesse se renouvelle par le baptême ou encore par la résurrection. Bon, notez au passage que l'aigle est devenu pratiquement un phénix, hein, mais enfin, bon, c'est assez intéressant, parce que la jeunesse qui se renouvelle comme celle de l'aigle, c'est évident pour personne, même à l'époque de nos auteurs. Quelques questions sur le Nouveau Testament. Par exemple, à propos de Matthieu 11, 21, puisque le Sauveur dit que Tyre et Sidon auraient pu faire pénitence si le signe des miracles divins était apparu chez eux, pourquoi ces signes qui auraient apporté le salut aux croyants n'ont-ils pas été opérés en ces lieux? Réponse. Parce qu'en vertu d'une disposition divine, le Seigneur Sauveur était venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pourquoi était-il venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Parce qu'Israël, parmi toutes les nations du monde, a vénéré de manière spécifique le Dieu unique, et qu'il fut jadis un peuple appartenant à Dieu en propre, en quelque sorte, à cause des mérites d'Abraham, des patriarches et de David. C'est particulièrement à eux que le Christ a été promis. C'est de leur race qu'il descend, d'eux qu'il a assumé la chair avec laquelle il est apparu dans le monde. Cependant, parce qu'ensuite des miracles ont été opérés chez les païens aussi, cette parole peut être comprise de la manière suivante. Là où le Seigneur dit « Je suis venu seulement », il faut comprendre « Je suis venu en premier lieu ». Cela met en relief tant la vérité du verset que la miséricorde de Dieu qui est ouverte à tous. Donc, deux types de réponses. En général, c'est tiré de deux auteurs différents, hein, à chaque fois dans nos textes. Autre exemple, Jean 3, 34. Comment faut-il entendre ces mots ? Car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Certains affirment que cette phrase doit s'entendre exclusivement du Fils, parce que pour les hommes, on les voit recevoir l'Esprit, qui plus, qui moins, en tout cas avec mesure. Selon cette parole de l'apôtre, ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, soit la prophétie, soit selon la mesure de la foi, etc. Au Christ, son Fils unique, qui donne lui aussi l'Esprit, l'Esprit n'a pas été donné par Dieu avec mesure, parce qu'en lui est la plénitude de la divinité. Autre question, cette fois-ci à propos des actes des apôtres, ça ne repose pas sur un verset particulier, mais enfin sur une vue d'ensemble du livre. Quels apôtres se sont dirigés vers quelle partie du monde pour évangéliser en annonçant la parole de Dieu? Pour autant que l'histoire le rapporte, Barthélemy s'est tourné vers les Indiens, Thomas vers les Parthes. Par la prédication, Matthieu a civilisé les Éthiopiens et André les Scythes. Jean a redressé l'Asie par la parole divine. Pierre, en prêchant aux Juifs, a parcouru la Cappadoce et la Galatie, ainsi que la Bithynie, le Pont et les provinces limitrophes. Finalement, il est allé porter la lumière à Rome. Paul, qui a rempli de l'Évangile d'innombrables nations, de Jérusalem jusqu'à l'Illyrie, il ne va pas en Espagne, les a victorieusement soumises, comme par les armes, au moyen de ses préceptes. Bon, et ça, c'est tiré d'Eusèbe, Histoire ecclésiastique. Un exemple seulement du deuxième livre, hein, qui est quand même un peu austère, mais enfin fort utile. Hein. Les étymologies, il y en a plusieurs. Ève, vie ou calamité. Ça ne vous étonnera pas, hein, les anciens. Bon, je m'étonne, dit quand même Cher, qu'il y ait chez les Hébreux des traductions de noms aussi différentes. À moins peut-être que la raison en soit que cette même femme a apporté à l'homme à la fois la vie, en le mettant au monde, et la calamité par la transgression, ou que la femme est vie pour les uns et calamité pour les autres. Donc, parce que bon, dans la Bible, vous n'avez jamais que la vie, hein, mais là, il y a un double commentaire. Bon, à propos de l'épiphanie, qui est un mot grec, hein, il explique, le mot signifie apparition, manifestation, et la suite est intéressante parce que ça correspond à ce qu'était la fête de l'Épiphanie à l'époque, soit parce qu'en ce jour, notre Seigneur et Sauveur a été manifesté au peuple lors de son baptême, soit plutôt qu'une étoile est alors apparue, ou que dans le premier signe du Seigneur est apparue l'eau changée en vin. Hein, donc à la fois le baptême, Cana et l'adoration des mages qui font partie de la fête, même en Occident, à la fin du IVe siècle. Voilà, donc c'était quelques exemples tirés des instructions. Passons maintenant aux formulae. Alors les formulae, déjà le titre fait problème, parce que formula n'a jamais voulu dire clé, nous sommes bien d'accord, mais je l'ai rendu par clé parce qu'il me semblait que ça correspondait à ce qu'il voulait faire, mais ce sont des vignettes, des petites figures, hein, des formats formula, le diminutif. L'idée c'est de donner ces petites figures pour comprendre, pour avoir une vue générale de l'interprétation figurée des écritures. Car le livre repose sur l'idée que les écritures sont rédigées en un style imagé qu'il faut savoir décrypter. Elles prêtent à l'invisible des caractéristiques du visible pour se faire comprendre des hommes, mais ces images doivent être décodées. Et aux yeux de chair, je cite, « toute l'écriture doit être prise au sens allégorique, car le visible tout entier renvoie à Dieu ». Donc le but des formulae, c'est d'aider à pénétrer dans cette compréhension spirituelle sans laquelle la lumière reste cachée sous le boisseau de la lettre. Et ici encore, il le dit clairement dans l'introduction, il n'entend pas innover, mais s'inscrire dans la ligne de la tradition exégétique antérieure. De fait, quand on cherche, si on cherche quelque chose qu'il a inventé, on a bien du mal, hein, parce que maintenant, nous sommes très très bien outillés, hein, c'est bien rare qu'on ne retrouve pas là où les sources, souvent les sources de notre auteur. Donc ces formulaires sont un dictionnaire des symboles qui classe les entrées non pas selon l'ordre alphabétique, mais selon un ordre thématique. Il annonce son plan dans l'introduction. Il est probable qu'il avait caressé l'idée de faire un ouvrage exhaustif, mais il a compris en cours de route que c'était impossible. Il le dit, « Embrasser la totalité de ces vocables nous a paru tâche ardue, et de même tirer au clair, le sens de tous ceux qui ont une double signification et peuvent être pris en bonne comme en mauvaise part. » Il y a souvent plusieurs interprétations. De fait, c'est en lien avec le De Doctrina Christiana d'Augustin, hein, qu'il retient qu'une même réalité peut renvoyer à plusieurs significations. Les images sont polysémiques et il ne saurait pas être question d'attribuer automatiquement tel sens à tel vocable. Ce n'est pas de l'algèbre. Plusieurs images peuvent renvoyer à une réalité unique et inversement, une seule image a souvent des significations multiples. Toute la structure des entrées du petit dictionnaire est conçue selon ce principe sur lequel lui-même s'est expliqué. Il a donné, dans la préface des formulae, quelques considérations théoriques sur les divers sens de l'écriture. Les trois sens de l'écriture, plus un, parce qu'il en ajoute un quatrième qui lui vient de Cassien. L'historia, l'anthropologia, l'anagogé. Bon, tout cela lui vient de la tradition et, pour lui, à travers Jérôme, qui lui dépendait bien d'autres, évidemment. Hein. Mais ces règles exégétiques, bon, il se sent obligé de commencer par là, mais en réalité, elles sont sans influence aucune sur le corps de l'ouvrage. Dans la pratique, en effet, il reconnaît essentiellement à l'écriture deux sens, littéral et figuré. Il a une préférence marquée pour les exégèses symboliques qui ont une portée morale. Intéressantes sont les remarques qu'il fait sur le style biblique. Parce que les écritures sont paroles de Dieu et paroles sur Dieu, leur style s'écarte de celui du reste de la littérature. Je le cite, « Il n'est pas surprenant que la parole divine proférée par la bouche des prophètes et des apôtres soit grandement éloignée du style habituel des hommes, mettant à la portée de tous des choses faciles, mais contenant en son intime de grandes choses, car il convenait en vérité que les paroles sacrées de Dieu se distinguent de tous les autres écrits par leur aspect autant que par leur valeur intrinsèque. » Le sens profond de la Bible, donc, ne peut être autrement que mystérieux et caché, parce que Dieu est transcendant et n'échappe aux prises de l'homme. Je cite là encore, « Une économie divine a excellemment pourvu à ce que ses écrits fussent recouverts par l'ombre des mystères célestes, tout comme la divinité elle-même s'enveloppait de son secret. » Et donc, conséquence, beaucoup de travail est nécessaire pour comprendre les Écritures. Pour Eucher, l'effort pour parvenir au sens caché de l'écriture est absolument indispensable, tant dans la vie active que dans la vie contemplative. Il donne comme image de ce travail les deux femmes au moulin dont parle Matthieu 24-41. Je le cite, « On peut désigner les deux testaments par les deux pierres de meule, vous rappelez les moulins à l'ancienne, bon, à la romaine, hein, au moyen desquels le froment du livre ancien est transformé en la farine de l'évangile, moyennant le travail de ceux qui l'expliquent. Bon, il ne s'agit toutefois pas uniquement d'activité intellectuelle, parce que si elle est nécessaire, la prière ne l'est pas moins. Je cite, « C'est par l'esprit qui vivifie qu'il faut pénétrer jusqu'à l'intime les paroles de l'esprit. » Il faut, dit-il, prier le Seigneur de nous révéler les fourrés de ces écritures pour que nous exposions la manière dont il faut les entendre selon un sens plus caché. Le sens spirituel est à proprement parler celui de l'Esprit Saint, qui est l'auteur du langage figuré de la Bible et que l'on ne comprend qu'avec son aide. Et il faut évidemment, en plus, mener une vie qui cherche à se conformer à l'enseignement des Écritures. Et cela, précise-t-il, c'est une exigence pour tous. Et il ne serait pas de l'avis de Cassien qui disait que le moine qui désire atteindre la connaissance des Écritures ne doit jamais dépenser sa peine au livre des commentateurs. Ce n'était pas l'idée de Cher, comme le prouve son livre où il a utilisé beaucoup de commentateurs. Une des fonctions essentielles du livre, en jugé par la place d'honneur qui occupe les psaumes, c'est d'apprendre à bien faire ce qui est essentiel dans la journée du moine, à savoir la prière du psautier. Car la nécessité de l'interprétation figurée des psaumes s'impose à tout homme qui les prie. Mon âme est au milieu des lions, elle ne peut pas être prise tous les jours au sens propre, vous vous en doutez, et cela oblige nécessairement à dépasser le sens littéral. Sans exégèse symbolique, il n'y a pas d'appropriation personnelle possible des psaumes et pas d'écoute fructueuse des textes de la liturgie, d'où le travail des formulae. J'en prends quelques exemples. Je laisse tomber les anthropomorphismes dont j'ai déjà parlé à propos des instructions. Un exemple plus pittoresque, la poule. Parce qu'il y a, alors, bon, si vous avez toute la liste des sujets qu'abordent les formulae, sur ce qu'on appelle les membres du Seigneur, les choses du monde d'en haut, dans lequel il y a les astres et tout ça, les choses de la terre, bon, c'est quand même assez vague, mais enfin, bref, il y a beaucoup de choses dedans, les êtres vivants, diverses dénominations, il y a un peu de tout, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses, et vous avez les êtres vivants, parmi les êtres vivants, vous avez beaucoup d'animaux. La poule, dit Cher, elle représente la sagesse, l'église ou l'âme. Et il illustre ça par le verset évangélique où Jésus dit avoir voulu rassembler les fils d'Israël comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes, Matthieu 23, 37. La poule qui protège ses petits et qui couve les œufs d'autrui, à l'occasion, est également une image de l'Église chez d'autres auteurs, Fortunatien d'Aquilée, Ambroise, Maxime de Turin. En revanche, quand il nous dit qu'elle est aussi la figure du Christ, bon, ça peut se déduire du texte biblique lui-même, mais dire que c'est la sagesse, en fait, c'est la sagesse au sens de la sagesse de Dieu. Et cela, c'est à Augustin qu'il le doit. Ce n'est pas sans raison, disait Augustin, que la poule a été comparée à la sagesse de Dieu elle-même, car elle se met au service des hommes et protège les fidèles des puissances mauvaises, comme la poule préserve ses petits des attaques de l'oiseau de proie. Parce que nous étions faibles, la sagesse de Dieu est devenue faible, car le Verbe s'est fait chair. Pourquoi en fait-il ensuite une figure de l'âme aussi? Peut-être parce qu'il a parlé de l'Église et que donc c'est valable pour l'âme aussi. Sans doute aussi parce que chez Augustin, le croyant est invité à imiter l'abaissement volontaire de la sagesse de Dieu, qui dans son amour pour les hommes se met à la hauteur des hommes encore faibles dans la foi. C'est tout le problème du De Catechisandis Rudibus d'Augustin. Après la poule, le loup. Le loup représente non seulement les hérétiques, ce qui est une interprétation commune, mais aussi le diable, ce qui est beaucoup plus rare, mais qui se trouve chez Augustin, à propos de Jean 10, 12, et du berger mercenaire qui fuit devant le loup. Ce loup, dit Augustin, Augustin disait « Qui est le loup, sinon le diable ?» Et il avait tout un tractat sous signum sur le sujet. C'est sûrement la source de Cher. L'ours. L'ours, lui aussi, c'est une figure du diable. Et pour illustrer le thème, Cher renvoie au livre des rois, 2 Rois 2:24, où deux ours sortent de la forêt pour dévorer les jeunes gens qui s'étaient moqués du prophète Élisée. La faute de ces insolents est impardonnable parce qu'Élisée est une préfiguration du Christ. Et sous la forme des ours, c'est le diable qui s'empare d'eux pour leur châtiment et qui les dévore. Là aussi, c'est Augustin qui est là derrière. Mais il y a un autre endroit, quand il parle des forêts, il va revenir sur le thème avec une autre interprétation qui cette fois-ci est tirée de Jérôme. Les ours figurent des chefs cruels. Il n'en dit pas plus, des chefs cruels. Bon, et en fait, pourquoi ? Je le lis, des forêts sortirent deux ours, des rois de Rome, à l'ordre de celui que figurait Élisée. Et 42 ans après son ascension au ciel, ils dévorèrent le jeune Jean juif. Et c'est là qu'on voit que c'est du Jérôme, parce que c'est Jérôme qui avait, bon, qui avait appliqué le thème à la guerre juive et qui avait vu dans les deux ours Titus et Vespasien. Et les 42 gamins qui raillent Élisée en lui disant « monte et tondu », figuraient prophétiquement, dit Jérôme, les 42 ans qui séparaient l'ascension de la prise de Jérusalem en 70. Bon, calcul de Jérôme, voilà. L'éléphant, maintenant, je reste chez les animaux. L'éléphant, on ne s'étonne pas trop qu'il représente le très gros pêcheur, vu son poids. Bon. Mais on est davantage étonné de le voir figurer dans le bestiaire de chair, qui n'a quand même pas tous les animaux de la création. Parce qu'en dehors du livre des Maccabées, où cet animal de combat qui appartient aux armées macédoniennes terrifie les Juifs, il ne se rencontre qu'une fois dans la Bible. Et encore, pas dans la Septante, pas dans la Vieille Latine, mais dans la Vulgate, qu'il utilise aussi à l'occasion, qu'il utilise aussi. Bon. Je cite Cher, qui nous renvoie à 1 Roi 10, 22, dans les termes suivants, dans le livre des règnes, on lit « Et on amenait à Salomon des singes et des éléphants ». Je ne sais pas si vous avez jamais lu ça, mais enfin, bon. Alors, visiblement, il fait la citation de mémoire. Parce que une flotte rapportée de Tarsis à Salomon, de l'or, de l'argent, des dents d'éléphant, des singes et des paons. Les paons sont passés à l'as. Jérôme, dans son commentaire sur Isaïe, donnait une interprétation figurée du verset. Selon lui, toutes ces importations du monde païen représentaient qui étaient destinées à un roi coupable de fornication, Salomon, fornication, c'est-à-dire d'idolâtrie, tout cela représente les faux biens tirés de la culture païenne, l'éloquence et le sens perverti, c'est l'or et l'argent, les paroles mortes des hérétiques, c'est les dents des éléphants, les défenses, et un semblant de rationalité, ce sont les singes. Le pan n'a pas réussi à passer. Bon. Dans la mémoire de Cher, les éléphants se sont substitués à leur défense et ils figurent les pêcheurs mémorables, au nombre desquels Salomon, amateur de ces denrées exotiques. Le pélican, le hibou et le passereau. Dans les traductions de la Septante et des Vieilles Latines, ils apparaissent ensemble dans le psaume 101, 7, 8. Eucher en propose une interprétation christologique. Le pélican est le Christ Seigneur lors de la Passion, car il est dit dans le psaume « Je suis devenu pareil au pélican du désert ». Selon la légende de l'oiseau, qui nous est rapportée par le physiologus, mais que ne connaît pas, le physiologus n'est pas connu d'Eucher, il est dit que de son bec, le pélican ouvre son flanc pour en faire jaillir le sang au moyen desquels il ressuscite ses oisillons morts. Eucher ne connaît pas ce texte, mais il s'inspire d'Augustin, qui, dans son commentaire du psaume, en avait fait le symbole du Christ crucifié, qui, par le sang coulant de son côté transpercé, a rendu la vie à l'humanité. Et c'est probablement du même passage qu'il tire son interprétation du hibou et du passereau, parce que Augustin déclare là que le Christ est pélican par sa naissance, hibou par sa mort, passereau par sa résurrection. Encore un animal, c'est le dernier. Les grenouilles, enfin, il y en a beaucoup plus chez lui. Bon. Les grenouilles, elles représentent les hérétiques. Pourquoi ? Parce qu'elles demeurent dans la fange des sens très bas et ne cessent de déblatérer dans leur vain bavardage. Ça aussi, c'est de l'Augustin, pour qui les hérétiques sont des grenouilles qui fatiguent les oreilles sans nourrir les esprits, qui coassent dans la fange des marais et qui font du bruit sans amener à la connaissance de la sagesse. Pauvres grenouilles, ce sont souvent les donatistes qui sont figurés par ces grenouilles. Bon, enfin, il y aurait beaucoup d'autres exemples à prendre, mais j'accélère. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les formulae ne sont pas un manuel pour débutants. Il est évident que dans certaines pages, Eucher compte sur le fait que trois mots suffisent à son lecteur pour se remémorer le contexte, parce que c'est loin d'être explicite. Les citations bibliques qui entendent appuyer le sens symbolique d'un terme sont très brèves, parfois sibyllines, et leur pertinence n'est pas toujours sensible à première lecture. Dans 20% des cas à peu près, Eucher accompagne le déchiffrement de l'image d'une ou deux remarques explicatives bien nécessaires, mais c'est loin d'être toujours le cas. Il le fait pour l'autruche. Pourquoi désigne-t-elle l'hérétique ou le philosophe ? Sur la base d'Isaïe 34:13, qui se contente de les énumérer parmi les animaux du désert, Eucher dit « Et c'est bien parce que tout en ayant apparemment les ailes de la sagesse, ils ne peuvent prendre leur envol. Les autruches ne volent pas. » La moitié seulement des symboles sont immédiatement compréhensibles à la lecture du fragment de verset proposé. et la citation ne justifie l'image qu'aux yeux de quelqu'un qui est déjà au fait de l'exégèse patristique. Par exemple, alléguer Proverbe 30-31 qui évoque le coq se promenant content au milieu des poules pour en faire l'image du Christ, ça ne se conçoit que si l'on a connaissance de l'exégèse du verset qu'a proposé notamment Fortunatien d'Aquilée pour qui les poules figurent les églises entourant le Christ. Alors on se demande comment Eucher a réussi à faire son dictionnaire. Bon, pour les psaumes, il savait le psautier plus ou moins par cœur, très probablement, ça n'est pas rare dans le monachisme ancien. On peut imaginer aussi qu'il a pris quelques notes quand il lisait les exégèses de ses devanciers, dont il s'était pénétré, dont il pouvait reprendre la substance sans être obligé de se reporter sans cesse aux différents volumes. Les anciens n'avaient pas d'ordinateur, mais ils parcouraient moins de livres que nous, et donc ils en retenaient davantage, ils retenaient plus de leur lecture. Mais de quelle bibliothèque disposait-il? Bon, je n'ai pas vraiment suivi de regarder l'heure. Hein? D'accord, bon. Alors, pour la... Bon, alors quelques mots sur la culture. De toute façon, vous trouverez le... Sinon, le tout dans l'introduction, n'exagérons pas, mais enfin, moi, j'ai fait toute une série d'articles sur ces choses-là, jadis, et si vous cherchez des détails, vous les trouverez là-dedans. La culture de Eucher. Il a une très bonne connaissance des travaux exégétiques de Jérôme, de ceux d'Augustin, et aussi de beaucoup d'autres auteurs, en particulier d'Origène, hein, des homélies d'Origène, des textes d'Origène traduits en latin, homélies, cantiques des cantiques, etc. Il connaît aussi plusieurs œuvres d'Ambroise, on retrouve des traces de Tertullien, Cyprien, Victorin Petovio, Hilaire, Fortunatien d'Aquilée, Ticonius, Ambrosiaster, Paulin de Nol, enfin tous ces auteurs-là lui sont bien connus, hein, sans oublier évidemment Cassien, et même le prêtre Philippe, auteur d'un commentaire sur Job. Il connaît aussi, il a lu, le commentaire de Paul de Pélage. Il est probable que la bibliothèque du monastère possédait cela. Bon, je laisse tomber tout cela pour aller plus vite. Bon, j'avais fait un article, ça m'avait paru intéressant de voir les différences qu'il y a entre Cassien et Eucher, parce que c'est quand même pas du tout le même état d'esprit. Parce qu'en fait, Cassien, il le nomme dans son introduction, mais on s'aperçoit bien qu'ils ne sont pas d'accord sur un bon nombre de points. Eucher est beaucoup plus proche, par sa spiritualité, d'Augustin que de Cassien. Dans un ouvrage aussi court que les Formulae, il cite deux fois le double commandement d'amour, alors qu'il n'est jamais cité dans les œuvres de Cassien. Pour qui, quand il est question de charité, mot d'ailleurs dont il n'abuse pas, il est question surtout de l'amour de Dieu. Chez Cassien, il n'y a pas d'attention accordée aux relations fraternelles dans la vie monastique, alors que Eucher, c'est différent chez Eucher, il suffit de lire un certain nombre des images qu'il a retenues. Bon, j'ai dit qu'il avait lu du Pélage, hein, cela dit, vous savez que jadis on disait que les Provençaux étaient semi-pélagiens, bon, mais il n'est pas non plus représentant de la théologie provençale, même s'il a utilisé le commentaire de Pélage sur Paul. Cela dit, il n'est pas non plus en accord total avec Augustin. Il y a bien des points sur lesquels Augustin n'aurait pas manqué de mettre un bémol, notamment sur deux ou trois passages où il commente l'épître aux Romains. Bon, et il ne cite aucun des ouvrages d'Augustin qui ont suscité la réaction des Provençaux contre l'évêque d'Hippone. Cela dit, c'est peut-être pas surprenant non plus, parce que c'est pas là qu'on trouvait le plus de thèmes correspondant à son petit dictionnaire, et même peut-être aux questions de son fils Salonius. Ça n'est pas forcément significatif. Il est probable qu'il les connaît, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il aime le mieux. Il parle assez souvent de la nécessité de la grâce, mais il s'en tient à la théologie antérieure dans ce domaine. En conclusion, quelques mots sur le succès qu'ont eu ces deux opuscules. Cela vient de ce que dans les instructions, on peut trouver au fil du texte de la Bible, c'est-à-dire en fait de manière moins rébarbative que dans un traité plus abstrait, des enseignements concernant le corpus des Écritures, les règles d'interprétation, ce qu'est la prophétie, l'économie divine, etc. Beaucoup de choses finalement, beaucoup de thèmes sont abordés. Ça n'est pas systématique, mais il y a beaucoup de choses. Quant aux formulae, elles permettent à l'utilisateur de se remémorer les enseignements de la prédication, d'approfondir à son tour le sens spirituel de la Bible et de pénétrer plus avant dans la signification des textes liturgiques et tout particulièrement des psaumes. En fait, c'est un ouvrage de conception très moderne, c'est original à l'époque, hein, parce qu'il veut stimuler la lecture personnelle et l'interprétation des textes bibliques en donnant des clés, justement, hein, avec ses vignettes. Ces livres ont été beaucoup lus dans les siècles suivants, notamment les formulae. Dès la seconde moitié du 5e siècle, Faust de Riez, en Gaule, Faust de Riez, Ruricius de Limoges utilisent les formulae. Au 6e siècle en Italie, Cassiodore, Grégoire le Grand les connaissent fort bien. Et on en possède encore un manuscrit de la fin du 6e et du début du 7e siècle. On en a plusieurs manuscrits du 8e siècle et d'innombrables témoins médiévaux, dont certains munis d'entrées complémentaires qui prouvent leur utilisation constante dans les monastères. Et c'est pour ça que ça n'a pas échappé, enfin les formulaires notamment, n'ont pas échappé au sort de ce genre d'ouvrage. Comme c'était des manuels, on se permettait d'y ajouter et d'y retrancher, contrairement à ce qu'on faisait pour des grands auteurs comme Augustin ou pour Jérôme. Ils n'ont pas beaucoup retranché, mais ils ont ajouté. On a des manuscrits dans lesquels ont été ajoutés des éléments empruntés à Cassien, à Arnaud le Jeune et à Grégoire le Grand. Ça a été le travail des éditeurs successifs de supprimer ces éléments qui, évidemment, étaient parasites.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez vraiment introduit à ce volume. Vous avez dit ce qu'on pouvait savoir sur la figure, sur la vie de Cher, mais vous avez surtout introduit à son œuvre, surtout à ses écrits exégétiques. C'était très saisissant de voir comment, toutefois, vous avez beaucoup insisté sur la culture de Cher et ses sources. Vous avez régulièrement évoqué tel auteur dont s'est inspiré Cher, et en même temps, je trouve, il ressort vraiment de votre intervention qu'il y a quelque chose de tout à fait original dans la mise en forme, dans l'agencement justement des réflexions de Cher à propos des termes, des expressions bibliques, ou à propos de tel ou tel livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Voilà, nous disposons maintenant de...
C'est plus facile pour l'utilisateur.
Parmi les questions qui m'ont beaucoup intéressé, c'est dans les instructionnesses à propos de la Genèse. La première question, c'est quels sont les passages des Écritures qui attestent la Trinité ? C'est vraiment une question très intéressante et la réponse de Cher est très, très passionnante aussi à propos du livre de la Genèse, à partir du livre de la Genèse. Une question intéressante, c'est une question qui reviendra régulièrement par la suite. Je voulais moi-même poser une question. Il y a dans l'œuvre de Cher, dans ses écrits que vous avez présentés, surtout au début des formulés, je crois, il y a dans la préface des formulés, un texte qui donne une sorte de petite théorie de l'interprétation des Écritures. Et est-ce que cette théorie de l'interprétation des Écritures, même si elle est relativement peu développée ici, est-ce qu'elle est mentionnée par des auteurs ultérieurs ? Enfin, vous avez évoqué des auteurs qui citent Cher, mais est-ce que cet aspect-là, la théorie des sens de l'Écriture, est-ce que c'est repris par des auteurs ultérieurs ? Ou bien est-ce que, pour le dire les choses autrement, dans quelle mesure cette présentation que donne Cher des différents sens de l'Écriture a été un jalon dans l'élaboration de ce qu'on appelle la doctrine des sens de l'Écriture à la fin de l'époque patristique au Moyen-Âge, sur la base des auteurs précédents, bien sûr.
Pour ce qui est de l'époque patristique, enfin, personnellement, je n'en ai pas de traces. Et je pense que la doctrine des sens de l'Écriture, ceux qui en parlent se reportaient plutôt aux sources de Cher qu'à Cher lui-même. En revanche, alors évidemment, mais la recherche serait à faire, et pour le coup, je ne l'ai pas faite, parce qu'il y a un nombre faramineux de manuscrits qui ont été utilisés au Moyen-Âge. Donc, une étude de ce que les auteurs du Moyen-Âge doivent à Cher est à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, ça dépassait très nettement à la fois mes possibilités et ma science, parce qu'on tombe dans le Moyen-Âge avec quantité d'autres textes. Donc,
il s'appuie de manière importante
Oui. Ben, après, hein, mais je crois que ça n'a aucune importance parce que, enfin, ça ne, non, non, mais ce qui l'intéresse, c'est pas là de. Il y a des choses qui ont été tirées du traité des principes, mais je pense que justement c'est à propos de la prédestination, enfin, c'est à propos de la grâce ou des choses comme ça. Mais les homélies d'Origène n'avaient pas grand-chose d'hérétique, enfin, enfin, de toute façon, hein, donc on les utilisait très, très abondamment et sans scrupule. Augustin les utilise bien aussi, hein, moins que cher, mais il les utilise aussi. Donc. Jérôme, qui, bon, il prétend que, qu'il condamne Origène, tu l'as dit, il l'exploite abondamment. Donc.
Ce que vous disiez sur Balaam, l'interprétation de Balaam, on la trouve telle qu'elle dans les homélies sur les nombres d'Origène, hein, même si c'est passé par Jérôme, c'est peut-être l'idée que Balaam, bah, Dieu s'est servi de Balaam, ouais. Le païen, etc. C'est vraiment.
C'est quoi, c'est dans les homélies sur les nombres, non, non. Oui, oui, oui. Oui, Eugène n'a pas la prétention de faire original. Au contraire, il veut que ce soit la tradition.
Et en même temps, il y a une forme qui est assez originale. Donc, c'est ce type d'écrit, enfin, les formulés, c'est.
On n'a pas l'équivalent. À peu près à la même époque, il y a, comment il s'appelle déjà, Adrien, hein, l'Hexagogue d'Adrien, qui est faite en milieu grec. Il n'y a aucun rapport entre nos deux textes, hein, ils ne se connaissent pas, mais on voit bien que ça naît d'une même volonté à peu près à la même époque. D'ailleurs, quand on relit le De Doctrina Christiana d'Augustin, Augustin appelle de ses voeux des manuels de ce genre. Hein, qui parle à la fois des réalias de la Bible, etc., parce que pour pouvoir mieux comprendre le texte biblique. Ils n'ont pas grand-chose comme manuel à cette époque-là. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que ça a eu tant de succès.
On comprend que ça ait retenu l'attention d'auteurs comme Cassiodore, beaucoup plus tard. J'imagine que Isidore de Séville aussi, c'est quelqu'un qui a dû fait connaître.
Connaissance de toute l'œuvre d'Isidore. Hein. J'avais beaucoup travaillé sur les sources de ces questions sur la Genèse avec Michael Gorman et je ne crois pas avoir trouvé de chair dedans. Je ne crois pas en avoir trouvé. Oui, à vrai dire, dans le livre, là, en relisant des choses, il y a des choses de chair qui sont reprises par Isidore, tirées notamment du deuxième livre, des instructions. Il y a des choses qu'il connaissait, si. Il ne faut pas toujours se fier à ma mémoire qui n'est pas bonne et qui l'est de moins en moins, voilà.
De l'attention aux mots, ouais. Aux étymologies, aux définitions.
Oui.
Oui, bien sûr, en faisant part de la dissipation de mémoire, est-ce que lui-même fait appel à différentes versions du texte latin ? Est-ce qu'il y a des variantes textuelles ?
Du texte biblique ?
Du texte biblique.
Alors,
oui. D'un texte stable ?
Non, enfin. C'est difficile de savoir exactement quel texte il a sous la main, hein, parce que il a le Psautier gallican, mais il n'y a pas que ça. Hein, les vieilles latines, mais c'est toujours difficile de savoir. Il utilise aussi à l'occasion la Vulgate, mais c'est visiblement pas son texte, le texte qu'il utilise le plus. Mais il le connaît, hein, il connaît la Vulgate. Mais non, les questions de texte biblique proprement. Dites ne l'intéresse pas beaucoup. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une grosse différence de sens pour qu'il le précise. En fait, il en parle assez peu, même très peu.
Oui.
Le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure sur la terre vierge, etc. Il y a quelques, on peut trouver. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas. Je crois qu'il y a quand même pas grand chose. Hein. Ça n'est pas absent, mais il y a pas grand chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était, il était à l'origine du culte de la Vierge hein? Bon, je pense qu'ils citaient tout ce monde-là pour, parce que c'était des Gaulois, hein. Enfin, c'était des gens qui avaient vécu en Gaule, mais sinon, enfin bon, en tout cas, le culte de la Vierge, il n'y a rien du tout chez eux, cher de Lyon. Hein. C'est... Même si on est le 8 décembre, c'est la fête de Lyon, et l'Immaculée la Conception. Hein. Oui, à l'occasion des allusions, mais enfin, il n'y a rien de très... très important. Ça n'est pas absent, mais enfin, c'est tout ce qu'on en peut dire.
Merci encore pour votre attention. Attention qui nous donne vraiment le goût de lire. Je dois avouer que c'est très dépaysant. Enfin, mon expérience personnelle, je ne m'attendais pas à trouver ce type d'écrit. Je ne connaissais pas du tout Escher jusqu'ici. Et c'est très, très passionnant. Merci de nous avoir rendu sensibles à l'intérêt de ces deux écrits exégétiques. Merci beaucoup. Alors, je suis heureux maintenant d'introduire l'intervention de Guillaume Badi. Donc, Guillaume Badi, spécialiste de Jean Chrysostome. Je profite de l'occasion pour dire qu'il y aura ici même le 18 mai une soirée organisée par Pierre Molinier, autre spécialiste de Jean Chrysostome. Une soirée tout entière consacrée, hein. Jean Chrysostome et l'écriture, hein, c'est ça. Hein, voilà. Voilà, donc ce sera le 18 mai au soir, hein, à 19h30. Hein. Voilà. Alors, outre sa très grande compétence sur Jean Chrysostome, donc, Guillaume Badi est, comme vous le savez, directeur de l'Institut des sciences chrétiennes à Lyon, un institut très important qui édite depuis de nombreuses années des textes patristiques. Je profite de l'occasion pour dire, mais peut-être que Guillaume le précisera aussi, qu'on s'achemine vers le 80e anniversaire des sciences chrétiennes, en 1942-2022. L'an prochain. Et donc, je suis très heureux de lui laisser la parole. Il va maintenant nous présenter les autres volumes de la collection qui sont parus durant l'année 2021. Merci, Guillaume.
Merci beaucoup, une fois de plus, Michel Fiedou. Je remercie le Centre Sèvres pour cette soirée qui est très importante pour nous. Je remercie beaucoup Martine Dulaet parce que, grâce à elle, j'ai vraiment beaucoup appris. Moi aussi, en tant que directeur, en fait, je continue à étudier, à apprendre. Et je ne devrais pas le dire, mais il y a des livres qu'un directeur aime bien et d'autres un peu moins. Et celui-là, vraiment, je l'ai particulièrement savouré. Et j'espère que ce sera le cas aussi des lecteurs. Avant d'envisager les autres nouveautés de l'année, je voulais saluer le travail de toute l'équipe aussi, l'équipe des sources chrétiennes, Isabelle Brunetière qui précisément a travaillé sur ce volume de Escher, Yasmine Eschael, Dominique Gonnet, Laurence Mellerin, Bernard Meunier, Jean Reynard, Blandine Sauvelet, Catherine Cyr, Dominique Tinel, et puis Marie Polia et Marie Fray, Rébillé Borgela qui étaient parmi nous quelque temps. Je dois signaler, parce que c'était pour nous un événement, le départ de Dominique Bertrand, qui a longtemps dirigé la collection, voilà, qui est dans Maison de retraite, et de même de Michel Dujarrier, qui travaille sur la fraternité, entre autres. Voilà, et puis je dois rappeler aussi le rôle important de notre conseil scientifique, dont plusieurs font partie ou ont fait partie dans cette salle, voilà, qui nous aide à orienter la collection et à garantir sa qualité. Je signale encore, et ça c'est plus nouveau, l'enrichissement de notre site web concernant des notices sur les œuvres et sur les volumes, des enrichissements qui se trouvent également sur la base de données Sources Chrétiennes Online, Brépolis, qui vous permettent d'avoir accès. Il y a déjà 300 volumes dans cette base. Voilà. Alors, ne s'y trouvent sans doute pas encore les nouveautés que je vais présenter à l'instant. Et je commence par le 612, Grégoire le Grand, Registre des lettres, tome 7. Alors, grâce à Marc Redley, nous faisons un saut dans le temps, et même un double saut, d'une part dans les 14 livres du Registre des lettres de Grégoire le Grand, riche de plus de 600 pièces. Et nous passons directement d'un tome 2, avec les livres 3 et 4, à un tome 7, livre 12 et 14. Et les volumes intermédiaires sont encore en chantier. D'autre part, nous nous transportons aux toutes premières années du 7e siècle, aux côtés de celui qui fut non seulement un auteur de l'histoire, mais un de ses acteurs les plus éminents. C'est en effet à la fin de son pontificat, à partir de septembre 601, que couvrent les livres 12 à 14 de cette correspondance interrompue par la mort du pape le 12 mars 604. Les 79 lettres de ce tome sont traduites à partir du texte latin établi par Dan Norberg dans le Corpus Christianorum. Dans son introduction, Marc Redley en présente les trois thèmes majeurs, le gouvernement de l'Église, la correspondance politique à l'empereur, aux souverains étrangers, aux autres personnages éminents, et une dizaine de lettres privées à des clercs ou à des laïcs. Certes, la langue, le style, les anthroponymes, par exemple Adalovald, Agilulf, Alcison, Barbarus, Burgo Ald, Comitiol, Exilaratus, Gondoberge, Guduin, Vermariker et Vintarit inspireront-ils des parents en mal de prénoms originaux? Voilà, à nos contemporains, bien des éléments sembleront lointains, sinon d'un autre monde ou d'une autre époque. Cependant, par les situations ou les sujets abordés, alors que divers scandales ont récemment troublé l'Église catholique, cette lecture se révèle une saisissante actualité. Et que dire des incertitudes de notre époque? Celle de Grégoire, à la charnière de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, est marquée par une instabilité encore plus grande, en particulier en Italie. Alors que s'établissent des royaumes barbares, elle est en proie à des guerres incessantes, à des inondations et même à des épidémies. Du reste, avons-nous là un pur produit de chancellerie? Si les formules d'usage sont respectées, le signataire n'hésite pas à y mettre du sien, soit pour confesser sa faiblesse physique, soit pour affirmer son autorité. Il écrit en novembre 602 à Sénator, prêtre et abbé d'un hospice des Francs. « Si quelqu'un des rois, des évêques, des juges et des personnes du siècle, en connaissance de ce texte de notre Constitution, ose aller à son encontre, qu'il perde la dignité de son pouvoir et de son titre, et qu'il sache qu'il se présente devant le tribunal divin coupable d'avoir commis une injustice. » Voyez le ton et l'autorité que dégagent ces lettres. Son respect des lois et des usages s'observe à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur. En témoigne sa lettre à Pascase, évêque de Naples, en novembre 602. Les Juifs habitant Naples se sont plaints à nous, assurant que certains cherchent contre toute raison à les écarter de certaines solennités de leurs fêtes, pour qu'il ne leur soit pas permis de pratiquer les solennités de leur cérémonie. Sa réponse est particulièrement intéressante car elle argue de l'usage séculaire et prend acte de la pérennité du judaïsme. Il écrit « qu'ils aient la libre permission de suivre et de célébrer toutes leurs réjouissances et leurs fêtes comme ils les ont gardées jusqu'à maintenant, aussi bien eux que leurs pères, en les observant durant de longs siècles antérieurs. » Voilà, ce 20e volume de Grégoire le Grand, qui est un petit peu ses ultima verba, n'est pas accompagné, comme certaines des lettres originales, de reliques ou d'objets de Saint-Pierre, ni d'un morceau de la croix, puisque c'est le cas, ou encore de bijoux, ni d'un manteau envoyé à un évêque souffrant du froid. Que le lecteur ne s'en chagrine pas, le prix de l'œuvre est d'un autre ordre, en tant que source majeure pour l'histoire du pontificat, bien sûr, et de l'époque en général, tant au niveau politique que personnel. Il en jugera du moins à sa guise, lisant peut-être avec un plaisir aussi vif qu'indiscret ces lettres d'un pape à qui l'idée de diffuser des encycliques aurait été pour le moins étrangère, et qui manifestait à la nouvelle d'une lecture publique des morales sur Job son déplaisir, parce que, dit-il, ce n'est pas une œuvre pour le peuple et que, chez des auditeurs sans instruction, elle produit de l'embarras plutôt qu'un progrès. Ce pape, contrarié d'apprendre que l'empereur avait apprécié sa règle pastorale, est-il infaillible quand il assène À moi, il a beaucoup déplu que ceux qui ont mieux à faire s'occupent à des riens. Je passe au volume 613, Grégoire de Nice, d'un Grégoire à l'autre, un nouveau saut dans le temps. Les homélies sur le Cantique des Cantiques, rédigées entre 386 et 394, comptent parmi les pages les plus sublimes, sans doute, de la littérature patristique. Précédées d'un prologue, les 15 sermons, prononcés en assemblée avant d'être retravaillés par écrit, commentent presque chaque mot du Cantique jusqu'au chapitre 6, verset 9, dans une lecture spirituelle d'une richesse extraordinaire. Sur la base du texte des Grégory Nicénie Opéra, Mariette Canévet, aidée de Françoise Vinel, introduit, traduit et annote l'ensemble. Trois tomes sont prévus. Le premier, donc ce 613 de la collection, comprend le prologue et les homélies 1 à 5, qui vont du début du livre au chapitre 2, verset 17, avec l'introduction portant sur l'ensemble des homélies. À la diaconesse Olympias, qui lui demandait que soit manifestée par une explication appropriée la philosophie qui se cache derrière les mots du sens littéral immédiat si on les purifie en des pensées non souillées, je cite le prologue, la réponse de Grégoire de Nice ne cache rien du caractère érotique du livre. Quel plus grand paradoxe que celui-ci ? La nature elle-même purifie ses propres passions. Car c'est par les paroles qu'on pense être celle de la passion que nous est prescrite et enseignée l'impassibilité. Et ce n'est pas le seul paradoxe, car si le désir de la beauté, écrit-il encore, sert d'entremetteur à l'ardeur, il n'en va pas comme dans la coutume humaine où l'initiative du désir appartient à l'époux. Mais c'est la jeune fille qui devance sans honte l'époux en déclarant publiquement son ardeur et en formant le vœu de jouir enfin du baiser nuptial. Et Grégoire va jusqu'à dire que les bons entremetteurs de la jeune fille sont rien de moins que les patriarches, les prophètes et les législateurs. L'exégète ne recule pas devant l'audace des images comme celle des saints et de la mamelle, qu'il applique au fils comme à Jean l'évangéliste. Alors, est-ce que c'est le bon texte ? Voilà. Il a aimé les saints du Verbe, celui qui s'est penché sur la poitrine du Seigneur, Jean, qui a offert son cœur comme une éponge à la source de vie et qui a été rempli par une transmission ineffable des mystères enfermés dans le cœur du Seigneur. Il nous présente une mamelle remplie par le Verbe et nous emplit des biens que la source a déposés en lui, annonçant d'une voix forte le Verbe éternel. Aussi, lui dirons-nous, à bon droit, nous aussi, aimons tes saints plus que le vin. Ce goût du paradoxe, par association d'idées ou de motifs, où le spirituel transcende le charnel, s'illustre régulièrement dans une inversion, dans une réciprocité inattendue des situations. Mais bien sûr, le lecteur sera encore plus marqué par cette idée majeure qui se lit aussi dans d'autres œuvres du Nicéen, mais qui est ici originale dans son ampleur et sa formulation, au point de conférer à ses homélies une célébrité particulière, c'est-à-dire la relation à Dieu qui est progrès infini en lui. C'est là une clé d'interprétation. La progression du texte révèle celle de l'âme en Dieu. L'exégète comprend ainsi la répétition de « Lève-toi » en Cantique 2, 10 et 13. L'âme devient chaque fois plus grande qu'elle-même par sa participation à celui qui la transcende et ne cesse jamais de croître. Au fur et à mesure qu'elle progresse vers ce qui surgit chaque fois au-devant d'elle, son désir augmente aussi et l'excès des biens qui se manifestent toujours dans leur transcendance lui ferait croire qu'elle en est encore au début de son ascension. C'est pourquoi le Verbe dit à nouveau à celle qui s'est déjà levée, « Lève-toi !» et à celle qui est venue, « Viens !» Celle qui se lève ainsi, en effet, ne cessera jamais de se lever toujours, et celui qui court vers le Seigneur n'épuisera jamais le large espace pour la course divine. On le voit, l'auteur ne fait pas seulement œuvre d'exégète, il jette les fondements philosophiques et théologiques de la mystique chrétienne. Il ne donne pas seulement toute sa légitimité religieuse à un livre érotique, il exprime et formule le changement décisif que le christianisme opère dans la conception grecque du temps et du rapport au divin et à soi-même. Alors je passe à un double monument, les numéros 614 et 615, à savoir les scolios au psaume des Vagres le Pontique, une édition Princeps qui était attendue depuis plus de 60 ans, découverte à la fin des années 50 par Marie-Joseph Rondeau. Je dois dire qu'elle a eu les deux volumes en main simplement quelques semaines avant son décès, le 20 août 2021. Donc ce texte des scolios au psaume des Vagres bénéficie ici pour la première fois, grâce à Paul Gien et Mathieu Cassin, d'une édition critique complète, fondée sur tous les témoignages connus et rendant globalement indiscutable l'authenticité évagrienne. Alors, les ouvrages exégétiques d'Évagre sont des raretés dans la littérature patristique et revêtent souvent cette forme très spéciale de scolie, brève, ciselée. Beaucoup ont une ou deux lignes et la plus longue en comporte jusqu'à 24. Composée vers le milieu de la production littéraire d'Évagre, les scolies aux psaumes représentent le plus important de ces commentaires par leur ampleur, près de 1400 scolies et leur valeur doctrinale et spirituelle. L'exégète commente tout le psautier grec en opérant une sélection, une exégèse éclatée ou atomique, dirons-nous. Les scolies butinent ça et là, sans s'obliger à suivre rigoureusement le fil d'un psaume. Mais l'ensemble ne manque certainement pas de cohérence. Elle dessine en effet une vision cosmique des natures raisonnables, que ce soit les anges, les démons ou les êtres humains, dans un drame de l'intellect entre chute vers le monde sensible et ascension vers Dieu. Les psaumes de la vie pratique, pour dire le vocabulaire d'Évagre, expriment ainsi la confrontation aux passions et aux pensées, tandis que les hymnes de la vie gnostique louent Dieu tout à la joie de la connaissance divine des êtres et de leur raison. Alors le lecteur fera sans doute sien le jugement formulé en introduction. Le commentaire prend souvent l'aspect d'un catalogue d'équivalence entre un lexique réputé caractéristique de la Bible et les grandes notions morales et intellectuelles qui structurent le système évagrien. Il y a un petit peu de ça déjà chez Eucher, hein, l'idée d'une équivalence entre un mot avec son sens littéral et puis un sens symbolique. Maxime, définition, syllogisme, parallèle biblique, question-réponse, emprunts littéraux à divers auteurs, Clément d'Alexandrie, Origène, Flavius Joseph même, proposition de plusieurs sens dans certains cas, la palette de l'exégète, que l'on pourrait qualifier de peintre pointilliste, est malgré tout assez variée. Alors parce que son exégèse se situe à un niveau souvent métaphysique, le sens du paradoxe prend chez lui une tournure parfois très étonnante et redouble d'une scolie à l'autre. D'un côté, il transpose le paradoxe du menteur en ces termes. « Tout homme est menteur », psaume 115, 2. Si David aussi est un homme, écrit-il, il est menteur. S'il est menteur, il ment en se disant menteur. S'il ment en se disant menteur, il n'est pas menteur, mais il est véridique. Et il poursuit, si on abandonne le fait d'être homme, on n'est plus menteur, mais véridique. En effet, le nom d'homme indique tantôt l'essence, tantôt la condition très mauvaise. Dans la scolie suivante, Évagre continue, « Je ne craindrai pas ce que me fera l'homme, dit le psaume. » L'Écriture appelle homme le diable, parce qu'un homme ennemi a semé l'ivraie par-dessus. Matthieu 13, 25. Propos bien peu humaniste, si je puis me permettre de commenter ainsi. Mais ils trouvent leur pendant inverse dans une scolie précédente. Psaume 115, 2. Tu feras périr tous ceux qui disent le mensonge. Si tout homme est menteur, selon David, ce sont donc tous les hommes, selon cette parole, que le Seigneur fait périr, afin qu'après avoir laissé leur condition d'homme, ils deviennent Dieu. Alors l'homme, diable ou Dieu? À partir des images, des usages bibliques, Évagre pose une redoutable alternative. C'est par le même type de procédé, précisément, consistant à transformer des substantifs en simples déterminants, susceptibles d'évolution, qu'il montre ce qu'on pourrait appeler, au sens moral cette fois-ci, son humanisme. Face aux formules imprécatoires de certains psaumes, il écrit « Qu'ils disparaissent de la terre, les pécheurs et les iniques, de façon à ne plus exister. » Psaume 103, 35. Non pas pour qu'ils n'existent plus, mais pour qu'ils n'existent plus, pécheurs. Ou encore « Car voici que tes ennemis périront. » L'ennemi qui périt devient ami, car Dieu a fait disparaître son inimitié. L'exégèse évagrienne met donc en œuvre une théologie qui, par certains aspects dont ces scolies ne sont pas complètement exemptes, a suscité la polémique, mais vise à dévoiler le sens divin des psaumes, qui semble sans limite. Sans limite, en tout cas, ces deux volumes détiennent désormais le record de taille dans la collection, tutoyant chacun les 800 pages. L'ampleur et la complexité de l'ensemble se veulent à la mesure de l'ambition, publier une édition de référence et même une édition qui fera date. Alors j'en viens au tome 616 et 617, donc Hildegard de Bingen, opuscule monastique, et je m'inspire ici des pages rédigées par Laurence Mellerin qui vont paraître dans le bulletin de l'Association des Amis de Sources Chrétiennes. Pour la première fois, donc, grâce à la collaboration de deux sœurs bénédictines, Hildemarck Baumard de l'abbaye de Bradine, Marose Attoni de l'abbaye d'Emmingen, la collection Sources Chrétiennes s'ouvre aux œuvres d'Hildegarde, de Bingen, morte en 1179. En élargissant ainsi le cercle très restreint de ses auteurs féminins à ce jour, Égérie, Duoda, Claire d'Assise et Gertrude Defta. Il ne s'agit pas, dans ces deux volumes, des œuvres visionnaires et poétiques les plus connues de la sainte, et encore moins de recettes et de secrets d'herboristerie, mais de quatre textes qui nous donnent à voir sa conception de la vie monastique. Ils attestent notamment son rayonnement dans le monde monastique masculin, manifesté par la déférence de ceux qui s'adressent à elle. Dispersés dans les éditions modernes, c'est dans un unique manuscrit que nos textes apparaissent ensemble, le Risen Codex, qui fait aujourd'hui l'objet d'un vaste projet d'édition numérique à Mayence et Darmstadt. Outre cette dimension imposante, ce manuscrit est remarquable car rédigé sans doute en partie du vivant même de Hildegarde dans son monastère du Rupertsberg. Nos textes sont ici restitués selon la logique voulue par Hildegarde. Chacun d'eux est introduit par une lettre de demande et ce sont ses pères qui constituent chaque œuvre. Ils ne sont pas donnés dans leur ordre chronologique ni dans l'ordre de leur apparition dans le Risen Codex, mais selon la cohérence que les auteurs des volumes ont eu le mérite de dégager, à savoir d'abord le testament prophétique, qui expose à de très proches l'idéal de la vie monastique, ensuite le commentaire de la règle de Saint Benoît, texte fondamental dans la vie d'Hildegarde, qui en montre la réalisation quotidienne, concrète, la vie de Saint Disibold, qui illustre l'accomplissement de cela dans une figure emblématique, et enfin les solutions à 38 questions qui redisent le nécessaire recours au glaive de la parole de Dieu. Alors, le testament prophétique, le plus long de nos textes, est écrit à la demande du grand ami et secrétaire de Hildegarde, à savoir Volmar. Alors, elle est malade, elle sait que sa fin approche, pourtant, nous ne sommes qu'en 1168, et elle adresse à ses sœurs un condensé de ce qu'elle veut leur transmettre. Et alors, c'est un ensemble vraiment étonnant, où s'enchaînent lettres, considérations historiques, passages hymniques, commentaires théologiques, éloge de la vie de Saint Rupert, saint patron du monastère de femmes que Hildegarde a fondé vers 1150. Voilà, à travers ces grands tableaux de l'histoire du salut, s'y déploie un idéal monastique à portée symbolique, marqué par celui de la virginité, puisque dans les vierges se reflète pour elles l'état prélapsaire de l'homme créé à l'image de Dieu. Quant au commentaire de la règle de Saint Benoît, rédigé avant 1163, à destination d'une communauté en crise, peut-être fictive, prend place dans le contexte du renouveau des interprétations de la règle au XIe-XIIe siècle. L'abbesse n'en apporte pas les chapitres les plus spirituels, mais se concentre sur les aspects pratiques, la nourriture, le vêtement, le temps de sommeil, la longueur, la composition des offices. Ce qui est intéressant, c'est qu'Hildegarde ne suit pas l'éducation ascétique rigoriste qu'elle a elle-même reçue dans son enfance, mais elle se situe nettement dans les débats de son temps en lui préférant l'équilibre de la modération et la liberté d'interprétation qu'incarnent saint Benoît et sa règle. Benoît, écrit-elle, fut la fontaine scellée qui fit jaillir son enseignement dans la justesse de Dieu, car il fixa la fine pointe de l'enseignement ni trop haut ni trop bas, mais au milieu de la roue, de telle sorte que chacun, fort, faible ou infirme, puisse convenablement y boire selon sa capacité. Voilà, je passe un peu sur les autres textes, mais je voudrais insister sur un aspect. C'est sur la liberté du langage d'Hildegarde et sur le fait qu'elle se présente elle-même comme prophétesse. Alors peut-être en faisant cela, elle essayait d'éviter que, comme elle parle comme une femme, elle ne soit pas du tout écoutée. Et de même, vous voyez qu'elle dit « Ne méprisez pas l'auteur de ces lignes, un être humain qui ignore les règles littéraires, qui fut en mauvaise santé de l'enfance jusqu'à sa 70e année » et n'a ni vu par les yeux de l'homme extérieur, ni entendu par les oreilles, ce qui est écrit ici, mais qu'il a vu et entendu dans la seule connaissance intérieure de son âme. Donc elle revendique, d'une certaine façon, son ignorance, qui est toute relative, puisque en réalité, elle montre une culture qu'elle a pu apprendre, même si ce n'est pas forcément une culture livresque qu'elle a eu l'occasion tout de même d'acquérir. Alors son langage, c'est un langage nouveau, au sens propre aussi, puisqu'elle est connue pour utiliser une lingua ignota, inventée par elle-même, et précisément, on en a un exemple dans une antienne Là, vous voyez donc O Orskis, je ne sais pas comment prononcer, traduit par Immensa Ecclesia. Vous voyez, vous avez Caldemia, Loifolum, Ornata. Et donc, ça donne ça en traduction. O Orskis, Église, Sainte d'Arme divine et parée d'hyacinthe. Tu es Caldemia, des blessures, l'œifolium, et la cité des connaissances. Oh, tu es aussi Chrysanta, dans le son élevé, et tu es Corsta, perle précieuse. Voilà. Alors, vraiment, quand vous ouvrez ce volume des sources chrétiennes, vous découvrez vraiment quelque chose d'absolument nouveau. Et donc, j'espère que ça stimulera de nouvelles recherches sur Hildegarde, qui est trop connue pour d'autres œuvres, à mon avis. Alors, je passe sur les numéros 619-620 qui paraîtront plus tard et me tourne vers trois volumes qui sont déjà imprimés et qui portent bien le millésime 2021, mais qui ne seront en librairie que le 6 janvier. Et tout d'abord, la lettre sur les synodes d'Hilaire de Poitiers. C'est une longue lettre traitée, écrite en 358-359, depuis son exil d'Orient, en réponse à une demande de ses compatriotes, les évêques gaulois, qui souhaitaient connaître les différentes formules de foi rédigées en Orient par les différents synodes qui s'y réunissaient presque chaque année et qui souhaitaient aussi mieux comprendre ce que les pères du concile de Nicée en 325 entendaient lorsqu'ils disaient le Fils de même nature que le Père ou consubstantiel homoousios. Hilaire leur envoie donc la documentation demandée, c'est cette lettre sur les synodes en 92 chapitres. Alors, Hilaire, à son tour, donne les documents, les explique. Il expose lui-même sa foi en justifiant l'homoousios au sens de l'homoiousios, c'est-à-dire de substance semblable. Il maintient une différence entre le Père et le Fils. Je cite, « Nous ne mettons pas le Fils au même niveau ou au même rang que le Père, mais nous le comprenons comme placé en dessous. Le Père, dit-il aussi, est plus grand en ce qu'il est Père. Le Fils n'est pas plus petit en ce qu'il est Fils. » Alors quoi? Est-il subordinationniste? Alors, il se justifie et il écrit « La soumission de la piété filiale du Fils, donc, ne constitue pas un amoindrissement de son essence. » Et il consacre même tout un développement pour montrer que la ressemblance signifie égalité. Pour lui, l'incarnation maintient l'égalité tout en glorifiant dans le Verbe la chair, à savoir l'humanité, comme responsable du salut. Donc, le nicéisme de l'évêque exilé est hors de cause. Et il est d'ailleurs bien connu comme le premier à mettre les chiffres symboliques des 318 pères du concile de Nicée en rapport avec le nombre saint des serviteurs d'Abraham en Genèse 14:14. Alors cela dit, les méprises sur le sens des formules qui avaient conduit jusqu'à des schismes étaient de toute manière si faciles qu'Hilaire lui-même a dû défendre sa propre interprétation. Et donc la lettre a été critiquée, notamment par frère Lucifer, évêque de Cagliari, ou encore un diacre romain, lui aussi nommé Hilaire. Hilaire de Poitiers, donc, dès avant 362, apporte des précisions sur 15 passages de sa lettre. Ce sont les Apologetica Responsa, ou réponses justificatives. Et avec ces réponses et l'ensemble de cette lettre, c'est en fait toute une herméneutique de la théologie dogmatique qu'il déploie, avec de multiples avertissements sur ses limites. Alors que la parole de Dieu est en exil avec nos corps, écrit-il, on livre à l'arbitraire pouvoir des hommes les décrets de la doctrine du Seigneur, sans parler de la difficulté de comprendre ce que disent les autres. Si bien que dans la majeure partie des 10 provinces d'Asie où je réside, écrit-il encore, on ne sait vraiment plus rien de Dieu. Ces limites historiques aggrave celle plus fondamentale du langage humain par rapport à l'infinité divine. Le mot « substance » lui-même n'est pas idéal. Je cite, alors voilà, « Ce terme « substance » porte en lui en même temps une conscience de la foi et une tromperie à l'affût. De ce fait, on peut parler avec piété de la substance, une, on peut avec piété la terre. Tu as la naissance, tu as la ressemblance, pourquoi gardons-nous des soupçons faux sur le mot alors que nous ne divergeons pas dans l'intelligence de la chose. Les Écritures, enfin, ne sont pas exemptes de difficultés. Faut-il pour autant, se demande l'exégète, supprimer d'elles tout ce qu'on ne comprend pas? La Bible doit être interprétée comme un tout. Il s'écrit, « Je n'entendrai le Christ a souffert qu'à condition d'entendre, maintenant c'est l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié. Je n'entendrai « il est mort » qu'à condition d'entendre « il est ressuscité ». Ne tirons des divins mystères rien d'isolé qui pourrait entraîner le doute chez les auditeurs et fournir un prétexte aux blasphémateurs. Voilà. Alors, souvent, il est conscient de ses limites et il finit ainsi « j'ai exposé, confesse-t-il, autant que la pratique du langage humain le souffrait ». Et il en appelle en fin de compte à la foi ecclésiale « est-ce catholique, est-ce hérétique ? À vous de le confirmer par le verdict de votre foi ». Alors, ce texte introduit, établi, annoté par Michel Durst, avec une traduction française d'André Rocher et pour les réponses apologétiques de Dominique Bertrand, offre comme une photographie de l'état des débats d'Orient au plus fort de la crise arienne, vu par un envoyé spécial d'Occident exilé là-bas. Le point de vue préfigure ceux qui l'emporteront au moment du concile de Constantinople en 381. Alors en attendant les fragments historiques du même auteur qui sont en préparation, ce 14e volume d'Hilaire dans la collection est complémentaire de la lettre sur les synodes d'Athanase d'Alexandrie, écrite dans la même période, au maximum 2 ans plus tard, et en partie dans la même optique, à savoir la défense du concile de Nicée. N'appelle-t-on pas Hilaire l'Athanase de l'Occident? Et bien sûr, c'est pour moi une transition toute trouvée vers le volume suivant, le numéro 622, à savoir le tome aux Antiochiens, les lettres à Ruffinien, à Jovien et aux Africains, d'Athanase d'Alexandrie. Donc c'est l'heureux compagnon de parution de la lettre sur les synodes d'Hilaire. Il est signé, comme la lettre sur les synodes d'Athanase, d'Annick Martin, qui a rédigé l'introduction historique générale, et de Xavier Morales, à qui l'on doit les introductions spécifiques. La traduction annotée est à 4 mains sur la base du texte grec des Athanasius Verke, avec un dossier de texte complémentaire. Alors l'action, si je puis dire, reprend ici en janvier 360, quand le synode constantinopolitain, convoqué par l'empereur Constantin, établit l'homéisme tenant le fils pour semblable, homoios, au père, comme foi officielle de l'Empire. De retour d'exil après la mort de Constance, Athanase réunit un synode à Alexandrie, sans doute après mars 362, pour défendre à nouveau la foi homoousienne définie au concile de Nicée en 325, disant donc le fils consubstantiel au père. Il rédige ensuite un document adressé aux Antiochiens, un tome, c'est-à-dire plus qu'une simple lettre, un document officiel appelant les évêques à y souscrire. Alors pourquoi Antioche? Ce siège convoité et influent est officiellement tenu par Eusoios, un homéen radical. Alors que les homéens modérés, parmi lesquels les homéousiens, pour qui le fils est semblable en substance au père, ont Mélès pour évêque, et alors que les lycéens appelés eustatiens, du nom d'Eustate, ancien évêque de la ville, sont bientôt menés par Paulin. Voilà, la situation est complexe. La manœuvre de l'Alexandrin, en tout cas, est relativement simple. Elle consiste à gagner l'adhésion des Mélésiens à la foi de Nicée, tout en se méfiant de Mélès lui-même, suspecté de ne pas être sincère. Voilà, c'est un paquet de nœuds qui est, me semble-t-il, lumineusement démêlé par nos auteurs. Alors Mélès lui-même réagit en réunissant un synode à Antioche en 363, qui regroupe d'anciens homéens et homéousiens prêts à reconnaître le consubstantiel nicéen interprété selon leur propre sensibilité. Il envoie une lettre synodale à l'empereur Jovien, qui court-circuite ainsi les efforts d'Athanase. Athanase, donc, se voit bredouille dans sa démarche. Alors, Athanase réplique par la lettre à Jovien sur la foi, qui dénonce l'interprétation du symbole de Nicée faite par le synode, qu'il juge erronée. Donc c'est vous dire le fait que sa démarche n'était pas tout à fait pacifique. Alors à ces deux textes d'Athanase, 2 autres sont joints dans le volume. Il y a un court texte, la lettre à Ruffinien, qui expose les conditions de réintégration, sans doute en 362, des clercs qui avaient signé la formule homéenne de 360. Et puis la lettre aux évêques africains, qui appelle ceux-ci à rejeter les formules homéennes du synode de Rimini, avec un slogan très net, Nicée suffit. Et alors ces deux mots, Nicée suffit, peuvent servir de fil directeur à cet ensemble d'écrits, qui sont trop souvent interprétés comme témoignant avec le tome de ce qui serait une ouverture d'Athanase vis-à-vis des homéousiens, puis d'une sorte de retour en arrière. Certes, d'un côté, il s'adresse aux Mélésiens. En ces termes, Nous avons décidé de ne rien réclamer d'autre que la confession de Nicée à ceux auxquels on reprochait de parler de trois hypostases du fait que l'expression n'était pas scripturaire et par la même suspecte. De l'autre, ils se tournent vers les Eustatiens. Nous avons aussi interrogé ceux qu'ils avaient accusés de parler d'une seule hypostase pour savoir qu'ils, s'ils n'en parlaient pas comme le pense Sabellios, au sens d'une suppression du Fils et du Saint-Esprit, soit que le Fils est sans substance, soit que le Saint-Esprit est sans subsistance. Eux aussi nous ont assuré qu'ils n'en parlaient pas en ce sens. Alors, à ce faux dialogue pour Athanase, ce faux dialogue ne revient pas à permettre de parler trois hypostases, mais bien à convaincre les Mélésiens de s'en tenir à la formule de Nicée. Xavier Morales le dit bien, contrairement à ce que prétendent de nombreux chercheurs, le tome ne formule pas pour la première fois une théologie trinitaire de l'unique substance en trois hypostases. Alors, dans son résumé de la position des Mélésiens et des Eustatiens, avec ce double interrogatoire littéraire, on reconnaît sa tendance à utiliser non pas les arguments réels de ses collègues, mais ses propres argumentations. Et donc, c'est un petit peu fort, effectivement, de prêter à ses adversaires ou ses collègues des arguments qui sont en réalité les siens. Voilà. Alors, la vraie nouveauté qu'il apporte, sans doute, est ici dans le débat trinitaire, qui est commencé, bien sûr, dans les lettres à Sérapion. Mais ici, sa nouveauté, c'est l'introduction claire d'un complément pneumatologique, fondant une trinité d'une seule nature divine. Voilà. Et donc, à sa façon, il prépare aussi la reconnaissance pleine de la divinité de l'Esprit lors du Concile de Constantinople en 381. Alors, malgré son échec à l'époque, le tome aux Antiochiens est aujourd'hui un chef-d'œuvre herméneutique, ça reste vrai, pour l'interprétation des positions autour de l'emploi des mots substance ou hypostase. J'en viens au dernier volume du millésime 2021, à savoir le volume 624, Cyrille d'Alexandrie contre Julien, tome 4, livre 8 à 9. Voilà. Alors, c'est le troisième tome, même si c'est le quatrième, c'est le troisième tome à paraître dans la collection, puisque le tome 3, qui comprend les livres 5 et 6, sera publié ultérieurement. Voilà, les 10 premiers livres sont intégralement conservés, les 10 autres sont connus seulement par fragments. Avec la collaboration du regretté Jean Bouffartigue, Marie-Odile Boulnois offre non seulement une introduction, une annotation très riche, une traduction qui est à ce jour la première en langue moderne, en regard d'un texte grec fondé, avec des corrections, sur l'édition allemande parue en 2017. Alors, cette ample réfutation de ce qu'on appelle le « contre les Galiléens », que l'empereur Julien avait composé durant l'hiver 262-263, on a donc avec le livre 8 dans l'Alexandrin quelque chose de très différent de ce qu'on a dans les autres livres. En effet, en dépit de sa longueur, il se concentre sur trois fragments seulement de Julien. Occasion pour l'auteur de développer un diptyque dogmatique sur la Trinité et l'Incarnation. Moïse et les prophètes, d'après Julien, n'ont pas annoncé Jésus. Et d'après lui encore, le début de l'évangile de Jean suffirait à taxer les chrétiens de polythéisme. Voilà, Cyrille répond bien sûr à cela par une défense de la foi en Jésus et en la Trinité, unique nature en trois hypostases, comme l'accomplissement du monothéisme juif, appuyé sur l'Écriture et même sur de nombreux passages doxographiques tirés de textes profanes, comme ceux de Plutarque, de Platon, de Numénius, de Plotin, de Porphyre, du Corpus Hermétique, dont l'Alexandrin est parfois le seul témoin. Pour lui, en effet, la Trinité était déjà connue des philosophes, et il va jusqu'à reconnaître l'Esprit-Saint dans l'âme du monde de Plotin. Alors, dans la seconde partie, plus christologique, il s'agit d'affronter la critique de l'empereur invoquant l'impossibilité pour une vierge humaine d'enfanter un dieu. Cyrille remonte alors au péché d'Adam et souligne la nécessité du salut et le fait que rien n'est impossible à Dieu. Il se fonde à nouveau sur l'Écriture, mais aussi sur les philosophes, dont le philosophe néoplatonicien Amélius, qui aurait su qu'un verbe s'est fait homme. Voilà. Je cite littéralement Cyrille. Amélius aurait su qu'un verbe s'est fait homme. Ensuite, à l'objection « Pourquoi Dieu a-t-il supporté de venir dans la chair alors qu'un simple signe de tête lui aurait suffi ?» l'apologète oppose la volonté divine de respecter la liberté humaine ménagée par l'incarnation sans compromettre l'intégrité du Fils. Alors, cette partie sur l'incarnation se prolonge d'une certaine manière dans le livre 9, en abordant de front deux textes bibliques aussi fameux qu'énigmatiques. D'une part, l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, au chapitre 6 de la Genèse, des anges engendrant des géants, selon Julien, les descendants d'Enos engendrant des êtres très laids en raison du péché, selon Cyril, et d'autre part, le bouc émissaire, en Lévitique 16, l'un des sacrifices que ne pratiquent plus les chrétiens, selon l'empereur, ou bien une figure du sacrifice christique, selon l'Alexandrin. Celui-ci, pour justifier la spiritualisation des observances, tout en soulignant la valeur pédagogique des usages mosaïques, va jusqu'à donner comme exemple une figuration, l'art des hiéroglyphes, ou les proverbes pythagoriciens cités par Porphyre, ou encore utiliser une inscription à l'entrée du sanctuaire d'Épidore, la pureté consiste à penser saintement. Quant aux prescriptions alimentaires, jugées supérieures par les juifs, chez les juifs par le chantre du paganisme, le théologien, quant à lui, fait un instant de se muer en critique gastronomique. Il y a vraiment des considérations gastronomiques chez Cyril d'Alexandrie, c'est étonnant. Et finalement, c'est pour mieux critiquer les considérations de Julien. Et ensuite, ils dégagent leur sens allégorique. Et on a ainsi une sorte de bestiaire spirituel. Voilà, encore un autre bestiaire à quelques volumes de distance. Enfin, Julien, qui reprochait aux chrétiens d'avoir substitué à la loi juive une autre loi, Cyril fait valoir, une fois de plus, le passage des figures contenues dans la loi à leur accomplissement dans la vérité. Alors plus généralement, le débat soulevé par Julien touche à des questions fondamentales. Je cite, Julien déclare en effet que le christianisme ne reconnaît pas les lois de Moïse et que d'ailleurs les chrétiens se refusent à vivre selon les coutumes des juifs avec lesquelles pourtant celles des grecs sont en plein accord. Texte étonnant. En d'autres termes, que serait le christianisme sans son fondement juif? Et le judaïsme peut-il être assimilé à d'autres religions? Là, on ne peut pas dire que Julien n'a pas le sens du paradoxe et de la provocation. Il revendique en effet le judaïsme comme conforme au paganisme, je cite, à juste deux ou trois exceptions près. Face à une telle posture, Cyril développe une vision inclusive du christianisme, évidemment, englobant aussi bien le judaïsme que le paganisme, à travers les autorités philosophiques qu'il cite. L'enjeu est de taille. Quelle religion peut prétendre à l'universel? Voilà, je vous invite à vous plonger dans ces passionnants livres 12 à 14 du Contre-Julien. Je remercie beaucoup pour votre patience, j'étais un petit peu trop long, mais vraiment, je crois que ces volumes en valaient la peine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation très, très vivante, hein, des différents volumes qui sont parus cette année, en plus du volume Eucher. C'est vraiment une riche moisson, si j'ai bien compté. Ça fait 8 volumes, et même 9 volumes, si on tient compte du fait que Évagre, en fait, il y a 2 volumes pour Évagre. Ouais. Donc c'est vraiment une année très, très fructueuse, très riche. Vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, on s'achemine vers la fin de notre séance, mais s'il y a une autre question à poser à Guillaume Badine, on peut prendre quelques minutes pour cela.
Voilà, simplement, j'abuse encore de votre patience. Voilà un petit peu le programme pour l'an prochain et la suite. On a deux oraisons funèbres d'Ambroise de Milan sur la mort de Théodose et sur la mort de Valentinien II. On a une nouvelle édition des Stromates 1 de Clément d'Alexandrie. Un grand nouveau, si je puis dire, d'Adisho Katraya, le commentaire du Paradis des Pères en syriaque, une édition au Princeps encore. Le Panarion 1.25 d'Épiphane de Salamine par Aline Pourquier avec une expertise précieuse d'Alain Le Bouluec. Les Miracles de Saint-Martin par Grégoire de Tours. La vie de Saint-Bernard de Clairvaux, volume 19-620. Le tome 5 du commentaire sur les psaumes d'Hilaire de Poitiers, le canon de la messe et le traité des anima d'Isaac de l'Étoile, et puis le deuxième et dernier tome du commentaire sur le cantique de Nil d'Ancyre. Voilà, donc on a un beau programme pour l'année qui vient.
Merci beaucoup. Et Il le garde Mingon, il y a un projet d'éditer d'autres
œuvres. Tout à fait. Oui. Alors, il y a des commentaires, des évangiles qui sont bien avancés et d'autres volumes encore. Effectivement, c'est quelque chose de très nouveau, je crois, pour en France et même dans les études médiévales, de rendre plus disponibles ces textes mal connus.
Merci. Est-ce qu'on peut demander si Martine Dulet, si, est-ce qu'il y a un volume des Sermons d'Olbeau qui est en instance de parution, ou qui est déjà un volume qui est paru l'an dernier ?
Il vient de paraître, pas encore en librairie, pour autant que j'ai pu voir tout à l'heure à la procure, le BA 60, qui va jusqu'au psaume, je ne sais plus déjà, 61, quelque chose comme ça, et nous sommes en train de, nous allons terminer en tout cas l'essentiel du volume 61, bref, 61 ou 61 A ou B, je ne sais plus, pour la fin d'année, jusqu'au psaume 68. Voilà. Et puis, Sermon d'Olbeau, nous avons fini un volume qui n'est pas encore paru, parce que nous avons pas mal de problèmes à l'Institut d'études augustiniennes, avec notre Marjorie Brossé, qui était en congé de maternité, ça n'a pas facilité les choses, qui est toujours d'ailleurs en congé de maternité. Donc le troisième, et nous sommes en train de... Bon, on aura fini en principe l'essentiel du volume 3 des Sermons d'Olbeau à la fin de l'année. Et il y a encore... le contre Faust, dont nous devons terminer le volume 3 aussi. Enfin, on a trois volumes qui sont bien avancés, mais pas terminés. Voilà,
voilà, c'est vraiment extrêmement réjouissant de découvrir toutes ces parutions récentes et des projets de parution pour les mois qui viennent, pour l'année qui vient. Donc je voudrais redire vraiment toute notre gratitude envers Martine Dulet pour son intervention sur Auxerre, envers Guillaume Badi pour cette très belle présentation des autres volumes parus durant l'année. Et je vous remercie tous aussi pour votre présence ce soir. Et donc bon vent pour ce chrétienne. Et j'espère à l'an prochain, mois de décembre 2022, pour une rencontre